Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 entre 9h et 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Oad Yahalomi, Ofer Calderon, Orion, Hernandez Radou. Ils sont les trois otages français enlevés le 7 octobre, enlevés par les barbares du Hamas il y a 200 jours. Personne ne peut imaginer leur supplice. Y penser ne serait-ce qu'une seconde est effroyable. Nous sommes là, assis autour de cette table et quelque part, à plusieurs milliers de kilomètres, des hommes et des femmes sont retenus en enfer. Personne ne sait s'ils sont en vie et je me demande si la mort n'est pas une délivrance quand la souffrance est à ce point insupportable. Combien sont-ils aujourd'hui, ces otages du Hamas, perdus dans les tunnels de Gaza ? Comment ne pas penser à leur famille, à ses mères, à ses pères, à ses frères, à ses sœurs qui attendent dans l'angoisse et qui espèrent comme on espère quand on ne peut pas se résoudre à la réalité. Il n'y a hélas pas grand-chose à dire. Les croyants prieront un Dieu en regrettant son silence. Où était Dieu à Auschwitz ? Où était Dieu le 7 octobre ? Les autres penseront aujourd'hui comme hier à Oad, à Ofer, à Orion, à leurs proches, à leurs amis. Pour qui la vie ne sera jamais plus comme avant. Il est 9h, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Kenji Girac sera auditionné par les enquêteurs dans la journée. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Le chanteur va mieux. Il a été opéré hier près de Bordeaux après une blessure par balle au niveau du thorax. Il s'agit d'un tir accidentel selon les premières déclarations de Kenji qu'il aurait lui-même provoqué. Une version qui reste à confirmer. L'arme utilisée est toujours en cours d'analyse. Un homme qui a menacé de mort l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel va comparaître aujourd'hui, il a 26 ans, il se dit titulaire d'un BTS et d'un DUT. On peut donc imaginer qu'il avait pleinement conscience de la portée de ses actes. Il avait publié un message menaçant après l'altercation entre le chef d'établissement et une élève qui refusait d'enlever son voile islamique dans la cité scolaire parisienne. Le professeur Kevin Bossuet réclame plus de fermeté en cas d'attente à la laïcité.
Certes, il y a des actes, mais on attend véritablement des actes forts. Par exemple, chaque atteinte à la laïcité doit déboucher sur une saisine obligatoire du conseil de discipline. C'est ça la fermeté. À chaque fois qu'on s'en prend à un agent de l'éducation nationale, il doit y avoir une sanction qui soit ferme. C'est pour ça que j'attends beaucoup de ce procès et j'espère que la justice va donner une sanction à la hauteur du préjudice subi.
Et puis c'est officiel, le Royaume-Uni va pouvoir expulser des migrants illégaux vers le Rwanda. Après 2 ans de débat, le Parlement britannique a finalement approuvé cette nuit le projet de loi controversé. Les premières expulsions devraient avoir lieu au mois de juillet prochain, selon le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci beaucoup Chana. Régine est avec nous aujourd'hui et vous la connaissez, vous étiez en Israël il y a quelques jours. Merci d'être avec nous. Charlotte Dornelas, Joseph Massescaron, Vincent Hervouet, Joachim Le Floch-Imad, Gauthier Lebret sera là également tout à l'heure et Fabien Lecoeuvre, bien sûr. L'actualité est dramatique, nous le savons. Néanmoins, ce matin, je voulais que nous parlions de Céline Dion parce que cette actualité est tellement mortifère que Céline Dion est de retour dans Vogue. Vous allez voir d'ailleurs les images d'elle. Elle a posé, c'est le grand retour de Céline Dion. Elle se dévoile à Vogue France. Je suis très fier qu'à 55 ans, on me demande de révéler ma beauté, dit-elle. Et puis elle parle parce qu'on imagine qu'elle puisse remonter sur scène. Je n'ai pas combattu la maladie, elle est toujours en moi et pour toujours. On va trouver, je l'espère, un miracle, un moyen de la guérir avec les recherches scientifiques. Mais je dois apprendre à vivre avec. C'est difficile. Je travaille très fort et demain sera encore plus difficile, demain est un autre jour. Mais il y a une chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est de vouloir, c'est la passion, c'est le rêve, c'est la détermination. J'ai choisi de travailler de tout mon corps et de toute mon âme, de la tête aux pieds, avec une équipe médicale. Je vais être la meilleure de moi-même. Mon but est de revoir la Tour Eiffel, Fabien Lecoeuvre. Est-ce que nous allons la revoir chanter ?
Chanter peut-être pas tout de suite.
Ah bon ?
Non. Je crois pas. Elle l'a d'ailleurs annoncé il y a une quinzaine, trois semaines à peu près. Mais on va voir ses robes en France parce qu'elle prépare une exposition, ce dont personne ne parle encore aujourd'hui. Elle prépare une expo en France et elle sera présente pour l'inauguration sur toutes ses robes, célèbres d'ailleurs, de sa carrière. C'est-à-dire qu'elle va reprendre toute sa garde-robe, elle va les exposer, comme avait fait d'ailleurs une fois Sylvie Vartan au musée Galliera, comme a fait Dalida aussi, son frère avait organisé ça. Et ça déplace toujours beaucoup de visiteurs. Et je pense que c'est une manière de faire patienter quelque part, et vous l'avez dit très justement, un public qui s'impatiente aussi de revoir évidemment Céline Dion et ses nombreux refrains populaires.
Mais vous pensez qu'elle va revenir un jour ou pas ?
Oui, je pense qu'elle va revenir. D'abord, son métier, c'est sa vie.
Oui, mais bon, si elle peut pas...
Elle, depuis toute petite, elle chante.
Oui,
elle
va pas s'arrêter. Non, mais ça ne m'a pas échappé. Mais alors, cette maladie qu'elle a...
La difficulté de sa maladie, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Ça, on le sait. Il n'y a pas de traitement possible. Mais je pense qu'ils vont trouver quand même quelque chose d'ici les 2 ans qui viennent, c'est évident. Parce qu'elle a ce qu'on appelle des spasmes musculaires qui sont très compliqués et qui peuvent se mettre aussi sur les cordes vocales. Et c'est à ce niveau-là où elle a peur. Elle a peur d'annoncer un spectacle et puis qu'elle ait peut-être un malaise en scène.
Je crois qu'on va revoir ses dernières interventions. C'était sur Instagram, la dernière. Et Marine Lançon nous la propose à l'instant.
Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de voir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donne le courage et l'espoir de continuer.
Évidemment, on est toujours au bord de l'émotion.
Pascal, c'était en décembre 2022, lorsqu'elle a annoncé au monde entier, justement, qu'elle ne pourrait pas commencer sa tournée en février 23. Elle a d'ailleurs annulé les concerts qui étaient prévus à l'Arena à Paris. En septembre-octobre. Et c'est toujours triste pour un artiste, évidemment, quand il annonce un report. Pour le moment, on peut parler encore de report.
Bon, cette interview, ce n'est que dans Vogue France. Il n'y a pas un autre média dans le monde où elle a accordé cette interview.
Absolument.
Donc,
c'est un événement.
Oui, c'est un événement. Mais
elle est très attachée à la France. C'est un pays qui l'a couronnée et depuis l'âge de 14 ans.
La première intervention, la première chanson, c'est sur le plateau de Michel Drucker.
Voilà.
D'amour et d'amitié.
Absolument.
Il est si près de moi.
Et oui. Et puis, c'est la France, c'est un pays de cœur pour elle. Attention, vraiment. Ouais. Bon, tout a commencé ici, en partie.
Vous l'avez vu sur scène, j'imagine.
Oui, je l'ai vu à Bercy, je l'ai vu à l'Olympia, en première partie de Patrick Sébastien.
Ouais. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez vu Céline Dion, si vous n'avez pas pris l'avion pour aller à Las Vegas un jour, monsieur Vincent Hervouet, pour aller l'écouter.
Non, j'ai un filleul à Las Vegas, donc je vais le voir, mais.
Moi, je l'ai vu aussi à Vegas. C'est impressionnant.
Vous n'êtes pas fan
de Céline Dion ?
Oui.
Ah, écoutez, sa dignité, son épreuve impose une forme de respect, non ?
Non, mais la voix est exceptionnelle. Non,
c'est une voix exceptionnelle. Ouais, sincèrement.
Voilà, c'est la voix.
Et alors, quand on va la voir souvent en coulisses, on va la voir avant le show, parce qu'elle chauffe sa voix avec les invités quand elle leur parle.
La voix est.
Et après, quand elle a terminé son spectacle, elle met sa collerette, elle repart à l'hôtel tout de suite.
Bon, merci beaucoup Fabien Lecoeuvre. Un mot de Kenji Girac, il n'y a pas grand-chose à dire.
Oui, enfin, c'est un feuilleton, il y en a bien
si
pour
j'ose dire. Oui, mais moi, ce que je n'aime pas, c'est ergoter sur des informations qu'on n'a pas. Donc ça m'agace.
Personne n'a d'infos.
Ben voilà, donc on peut en parler pendant des heures.
Mais c'est vrai que les témoignages surprennent. Bon, chacun se répand de sa petite phrase et c'est très surprenant. évidemment.
Oui.
Pour le moment, les faits divers ne sont pas encore dans une catégorie certaine, on ne sait pas.
Enfin, ce qui est, la seule chose qui est formidable, c'est qu'il est hors de danger.
Ça, l'opération Irak Family, ça c'est un bonheur.
Et c'est l'essentiel.
Il a été sauvé.
Bon, merci beaucoup Fabien de cet éclairage. Et c'est vrai que cette actualité aujourd'hui, ça fait 200 jours que le 7 octobre a eu lieu. Régine Delfour, on vous a eu régulièrement en Israël, bien évidemment. On peut revoir ces trois otages, Orion, Ofer, Ohad. Et il se trouve que vous avez rencontré Hadass Calderon. Et Hadass Calderon est l'ex-femme de... Ofer Calderon, l'ex-femme. Et c'est la mère également des deux enfants qui ont été relâchés par le Hamas. Alors, vous l'avez rencontré, on va écouter son témoignage et vous allez pouvoir témoigner, si j'ose dire. Et on n'a aucune information, nous sommes d'accord sur ces otages.
Non.
On ne sait même pas s'ils sont en vie.
Non,
c'est ça. On ne sait rien.
Le Daily Mail a fait un article dernièrement où, apparemment, avec des informations des services israéliens, et il semblerait qu'il n'y ait plus que 40 otages vivants sur les 133 otages. Mais ça encore, c'est à vérifier, à confirmer. Mais le Hamas avait rejeté une proposition de négociation la semaine dernière quand Israël demandait 40 otages, notamment des femmes, des personnes âgées, des personnes malades. Et les enfants, et le Hamas avait dit qu'il n'en avait que 20 et non pas 40.
Et on n'a aucune idée, et je pose la question également à Vincent Herouet, où seraient ces otages?
Benjamin Netanyahou et le gouvernement disent qu'ils seraient à Rafah. C'est pour ça qu'il y aurait cette opération à Rafah, puisqu'il y a 4 bastions apparemment du Hamas qui seraient encore présents. Et Sinwar, donc le chef du Hamas, se trouverait dans Rafah, dans un des tunnels, entouré apparemment de certains otages.
Non. Alors, Vincent Herouet.
Ce qui est frappant, c'est qu'au bout de 6 mois, effectivement, il y a les opérations rescue, le sauvetage des otages, tout ça a été malheureusement totalement inopérant. Vous savez, c'est une guerre qui est vraiment très, très spéciale. Hier, l'actualité d'hier, en fait, dans la région, c'est que pour la première fois, vous avez eu un responsable israélien qui a été sanctionné pour le fiasco du 7 octobre, ou du moins qui a été sanctionné, qui a démissionné. Le chef du renseignement militaire israélien est le premier responsable israélien à assumer la responsabilité de ce fiasco du 7 octobre. Et c'est une guerre pathétique, tragique. Bon, on en parle tout le temps, pas faire des surenchères dans les superlatifs, mais il y a un incroyable décalage entre les moyens employés et le peu de résultats obtenus. On les compte sur les doigts d'une seule main, les otages qui ont été délivrés par la force.
Plus d'une centaine d'otages.
Je voudrais qu'on voit le...
Par la négociation.
Oui, par la...
Je vois qu'on voit votre sujet. Hadass Calderon, vous l'avez rencontré où?
Je l'ai rencontré à Kiryat Gat, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Tel Aviv. C'est là où elle vit désormais, puisque pour elle, il est hors de question de retourner près de la frontière avec la bande de Gaza. Annie Rose, elle m'a dit, vous pouvez même me donner 5 millions de dollars, je n'irai plus jamais.
Et elle est donc avec ses deux enfants?
Elle est avec ses deux enfants. Elle a 4 enfants, Hadass.
Voyons le sujet que vous avez réalisé.
Cela fait 5 mois que ses enfants, Sahar, 17 ans, et Erez, 12 ans, ont été libérés. Et pourtant, le cauchemar continue pour Hadass.
They feel like very guilty.
Ils se sentent très coupables. Ils ont été relâchés, mais leur père est encore là-bas. Quelque chose s'est cassé. Ils ont totalement changé. Ils sont complètement différents. Ils pensent même qu'ils pourraient être à nouveau kidnappés. Et peu importe ce que je peux leur dire, comme vous êtes en sécurité ou tout va bien maintenant.
Si Hadass a décidé d'emprunter la plume, c'est pour que le monde réalise ce qui s'est passé le 7 octobre.
Le monde doit savoir. Pendant qu'ils étaient en train de violer, ils les torturaient avec des couteaux sur tout le corps. Ils ont coupé les seins de ces femmes, ont mutilé leurs parties intimes, introduit des choses. C'est totalement fou. Et après, ils les ont tués d'une balle dans la tête. Dans son livre qui sort demain en France, Hadas met aussi en garde les Français contre le terrorisme.
Je pense que vous devez vraiment vous inquiéter et faire très attention avec le terrorisme. On ne peut jamais savoir quand il va frapper et nous surprendre comme ce qui nous est arrivé. Ça arrive par surprise, cela peut vous arriver dans votre maison, à votre enfant, dans la rue, dans n'importe quel immeuble, dans un avion ou n'importe où. Le terrorisme, c'est comme un cancer qui se propage et vous ne pouvez pas l'arrêter.
Ofer, son ex-mari, est l'un des trois otages français retenus dans la bande de Gaza.
Hier, donc c'est le 200e jour de la guerre en Israël. Près de 500 personnes se sont rassemblées devant les grilles du premier ministre israélien à Césarée, au nord de Tel Aviv, appelant le gouvernement à libérer les 129 personnes retenues en otage dans la bande de Gaza. Donc depuis le 7 octobre, parmi eux, donc il y a ces trois Français, 129 personnes.
133 en fait, on oublie parce qu'en fait 129 depuis les attaques, mais il y avait déjà aussi 4 otages et en fait c'est tous les otages, donc c'est 133.
Et effectivement, vous le disiez à l'instant, le chef du renseignement militaire israélien a démissionné en assumant sa responsabilité dans l'attaque sanglante du Hamas.
Oui, il est plus que limogé.
C'est une question qui s'était fortement posée, comment les services secrets, une question toute simple.
On le saura ça.
Mais pourquoi vous dites on le saura?
Parce qu'en Israël, on peut compter sur les commissions d'enquête. Mais pour l'instant, l'heure est à la guerre. On est toujours en quelque sorte le 7 octobre au soir. On est toujours dans l'état à la fois de sidération qu'a induit cette violence terroriste. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle est efficace. Regardez ces enfants qui aujourd'hui sont bourrés de culpabilité parce que leur père a disparu et qu'eux ont été relâchés. Ce sont des traumatismes difficiles à surmonter. Et de la même manière, la société israélienne, dont l'armée a été ainsi prise au dépourvu, débordée, dépassée, et aujourd'hui assez totalement contestée dans le monde entier, elle est dénoncée. Et bien la société israélienne vit ça d'une manière très, très, très traumatique.
Et elles se sont surtout isolées aussi par le reste du monde, puisque les Israéliens ne sont pas entendu non plus, et c'est vrai que c'est un traumatisme. Il faut savoir quand même qu'hier, que c'était le début de Pessah, et 30 missiles ont été lancés sur le nord d'Israël. Tous les jours, il y a des alertes, et dernièrement, ça faisait très longtemps que près de la bande de Gaza, à Sderot et Ashkelon, des missiles ont aussi été lancés.
On va essayer d'être en contact, dans une seconde, avec Pascal Radou. Pascal Radou est la mère d'Orion, qui est détenu depuis le 7 octobre. Et je disais tout à l'heure qu'il est impossible d'imaginer ce que cette mère vit, le supplice, le calvaire qu'elle endure. Je ne sais pas si elle est déjà en ligne avec nous. Marine Lançon me dit qu'il faut attendre encore quelques temps.
Mais quel sadisme de la part du Hamas. J'emploie le terme sadisme parce que ce n'est pas assez employé. C'est-à-dire, quand ils ont libéré les otages, je vous ai fait allusion la première fois, le fait de libérer au compte-gouttes, c'est-à-dire, mettez-vous à la place de ces familles. Ils ne savent pas. Et même au sein de ces familles, ils libèrent les enfants, ils ne libèrent pas le père. Mais on est dans ces gens sont d'un sadisme total. Total.
Bon, au-delà effectivement, de ce que vous dites et sur lequel on sera d'accord, l'issue, Vincent Ravouette, c'est-à-dire que ça fait 200 jours et on ne voit pas d'issue, ni militaire, ni diplomatique, ni politique.
Alors, d'abord sur le plan militaire, les objectifs de guerre que le gouvernement Netanyahou a fixés donnent l'impression d'être impossibles à atteindre. Détruire l'appareil militaire du Hamas, c'est une chose. Détruire, désosser l'organisation, c'est une chose. Liquider le Hamas, c'en est une autre. Or, ils ont mis la barre très haut en disant on va. Or, ce qu'on voit, c'est que le Hamas est puissant et qu'il est une organisation de plus en plus puissante. Son écho en Occident, on ne va pas revenir sur ce qui se passe ici, où tous les bastions du wokisme sont devenus pro-Hamas, peu ou prou, sont devenus des bastions de l'islamo-gauchisme. Mais même sur le terrain, ça paraît très compliqué de se débarrasser du Hamas. On a l'impression qu'ils n'y arriveront pas. Libérer les otages, qui était le deuxième but de guerre, eh bien on voit qu'au bout de 200 jours, Il y en a 130 qui sont portés disparus et dont on nous dit désormais que la plupart sont morts.
Mais qui négocie avec qui ?
Pardon ?
Qui négocie avec qui ?
Ah ben alors vous avez par ailleurs, en douce, pourrait-on dire, évidemment une négociation qui est menée via le Qatar, avec l'Égypte, avec les États-Unis poussent à la roue, Israël a ses représentants. Bien. On ne négocie pas directement, on négocie par... Et il y a donc un forum, il y a eu des propositions qui ont été sur la table, qui ont été récusées par le Hamas, et sans doute qu'elles ont été récusées parce qu'elles prévoyaient un échange massif de prisonniers palestiniens contre les otages, une quarantaine d'otages, et que le Hamas est incapable de remettre la main sur 40 otages en bonne santé à libérer.
Ils ne savent pas où ils sont. Ils savent pas. On l'a appris notamment avec le témoignage de Miachem, qui dit qu'il y a des civils qui ont, quand les otages ont été capturés, il y a des civils qui les ont emmenés chez eux et qui les retiennent otages. Donc le Hamas, avec le djihad islamique, ne savent même pas où sont certains otages.
Ils sont retenus en otage sur la ligne de front. C'est à peu près ça. Dans un chaos urbain et dans une société qui est hyper divisée. On imagine que c'est monolithique, que le Hamas tient tout Gaza en soucoupe d'une manière très, très, très verrouillée. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment.
Il est 9h20. Nous allons, je l'espère, en tout cas être en relation tout à l'heure, je vous le disais, avec la maire de Orion. Et nous allons marquer une pause, peut-être plus tôt que nous la faisons d'habitude. Et nous sommes avec Thomas Hill qui est avec nous, qui va prendre le chemin d'Europe 1 et de la grille d'Europe 1 entre 9h30 et 11h. Bonjour Thomas.
Eh oui, merci. Bonjour, Pascal. Je suis surpris que vous me donniez la parole aussi tôt. J'en suis ravi.
Ça peut arriver, effectivement. Donc on va vous écouter sur Europe 1 avec quelques invités peut-être.
Absolument, avec André Dussolier notamment, qui va nous rejoindre dans un instant.
André Dussolier, bah écoutez, vous le saluerez. Et puis, nous allons effectivement revenir dans quelques minutes. Je remercie Fabien Lecoeuvre. On va recevoir, parce que dans l'actualité, tous azimuts, on va parler de la réforme des retraites à la SNCF. Ça, je trouve ça sidérant. J'ai appris ça ce matin. La SNCF, très tranquillement, est en train de se faire un petit régime aux petits oignons. Rien que pour eux, en dehors de tout ce qui avait été signé dans la réforme des retraites, c'est sidérant, hein, vraiment, ce pays. Et donc j'ai appris que les conducteurs pourront entamer une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois travaillés rémunérés à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75%. Et syndicats et directions viennent de conclure un accord qui dit au fond à Emmanuel Macron, on s'en fiche. Votre réforme de retraite, on s'en fiche. Alors, le vrai scandale, si j'ose dire, c'est que les salariés du privé, ben effectivement, c'est encore eux qui vont payer. Les salariés du public, la réforme de retraite, ça les a très peu concernés. La réforme, la retraite du public est déficitaire, la retraite du privé est excédentaire, et c'est le privé qui paye pour le public. Mais le public, on n'y touche jamais. On ne touche rien au public. Mais enfin, comment voulez-vous que ce pays marche ? Enfin, comment voulez-vous que les gens... Comment voulez-vous que la parole publique soit crédible quand vous avez eu des manifs matin, midi et soir au printemps dernier et que vous avez, un an plus tard, la SNCF qui fait un bras d'honneur ? Qui fait un bras d'honneur au gouvernement et au président de la République ? Et tout ce monde, tout ça, normal. Ça émeut personne. Moi, je trouve ça, c'est absolument, c'est extraordinaire. Alors, on dira, les salariés du public, ils ne touchent pas la même chose que les salariés du privé. Sans doute. Mais, en plus, je suis d'accord avec vous, c'est à voir. C'est-à-dire que vous, votre retraite est calculée sur les 25 dernières années, le public, c'est sur les 6 derniers mois. Bon, bref, c'est un scandale. Mais tout le monde s'en fiche. Donc, alors, effectivement, il y a des choses plus importantes. Il y a des choses plus graves. Et, effectivement, il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Mais c'est invraisemblable. Il est 9h23. Merci Fabien. Et nous revenons dans une seconde. Nous sommes avec Pascale Radoux, que je salue et que je remercie grandement d'être avec nous. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la maire d'Orion. Orion est détenue.
Oui, c'est cela. Oui.
Orion est détenue depuis 200 jours. Je me demandais si vous gardez l'espoir.
Tout à fait, oui. Tout à fait, c'est la seule façon de pouvoir vraiment continuer à vivre tout en gardant, en étant positif, en gardant un peu de joie par moment. En ce moment, je suis avec ma petite fille, donc la fille d'Orion. Donc, ça me permet d'avoir de la joie avec elle. Et voilà, on garde tous vraiment l'espoir, et on y croit du fond du cœur, vraiment.
Est-ce que vous avez des échanges, et sans doute en avez-vous, avec le gouvernement français ?
J'ai des échanges, effectivement, avec Relations extérieures, j'ai eu des échanges principalement avec Monsieur Macron, lors de la cérémonie à Paris aux Invalides du mois dernier, oui.
Et j'imagine que ces échanges sont importants parce que c'est un réconfort pour vous.
Effectivement, quand il y a des échanges, quand on est sollicité, on se sent entouré, on sent une grande solidarité de la part de la France, et bien sûr que c'est aidant. Après, il y a des périodes où ça fait moins de bruit, où ben, surtout en ce moment, on parle beaucoup moins des otages, puisqu'on parle plus de la situation de l'Iran et Israël, donc on entend moins parler de la situation à Gaza et des otages. Donc c'est vrai que quand il y a ces étapes de où on n'en parle pas, ça peut être beaucoup plus angoissant. On a l'impression que le thème est un peu oublié et surtout quand on se rend compte que ça va faire déjà 7 mois, c'est quand même très long.
Orion est le plus...
Sachant qu'on sait qu'il y a des otages qui ont été prisonniers, voire même des années. Ça aussi, ça peut donner un espoir en se disant, bon, il y a des otages qui ont été prisonniers durant toutes ces années et ils s'en sont sortis. Après, les conditions ne sont pas les mêmes. Là, on est vraiment en guerre. Donc, voilà, c'est là où l'inquiétude peut être, on va dire, importante quand on essaye d'imaginer où ils peuvent être, s'ils sont alimentés, comment ils dorment, s'ils sont bien traités, etc.
Orion est donc votre fils, Orion Hernandez Radou. C'est le plus jeune des 3 otages français. Il a 32 ans, il faisait la fête donc au festival Trib of Nova. On le sait, de nombreux participants ont été tués, kidnappés le 7 octobre. Il est franco-mexicain, il est père d'une enfant. C'est ce que vous nous disiez, il est père d'une enfant. Il s'était rendu à cet événement et je voulais vérifier cela auprès de vous, auprès de sa petite amie. Et sa petite amie, c'était Shani Luk, qui a été assassinée lors de l'attentat. C'est bien cela ?
Oui, c'était son amie. Et oui, c'est bien cela.
C'est donc la jeune femme qu'on a vue sur ce pick-up.
Quelle horreur.
Et qu'on a vue tuée dans des conditions... abominable. Effectivement.
Après, on n'a pas vraiment vu. Il n'a pas été. On ne sait pas vraiment comment, de quelle manière vraiment elle a été assassinée. Hein. On a retrouvé un morceau d'os crânien. Donc, on suppose que forcément, ça a été un énorme coup dans la tête qui l'aurait tué sur le moment. Après, à quel moment exactement ? Est-ce que c'était devant mon fils ou pas ? On ne sait pas. On n'a pas de certitude.
Madame Radou, vous vivez dans le sud-ouest. Orion, lui, vivait en Israël ?
Non. Non, il ne vivait pas du tout en Israël. Il vivait plutôt à Berlin, entre Berlin et le Mexique et le Guatemala. Orion est plutôt nomade, voilà, et a son propre festival qu'il essayait de mettre en avant, de faire grandir. Donc, avec son propre festival, il faisait des tournées aussi bien l'hiver plutôt en Amérique du Sud, le Mexique, le Costa Rica, et en période d'été, au printemps, c'était plutôt en Europe. Donc, il bougeait beaucoup.
Je vous remercie beaucoup de ce témoignage. Je crois qu'on n'a pas de questions à vous poser, sinon à vous assurer de notre empathie la plus grande. Même si c'est souvent que je dis la même chose, on ne peut pas se mettre à votre place et personne ne peut imaginer la vie que vous avez aujourd'hui. Et on s'interroge d'ailleurs, et c'est l'espoir, c'est la première question que je vous ai posée d'ailleurs, comment on peut tenir chaque jour la mère que vous êtes. Et vous nous l'avez dit, il faut garder espoir parce qu'effectivement, il y a toujours eu des possibilités qu'il reste en vie, qu'il soit en vie. C'est en tout cas, j'imagine, votre vœu le plus cher aujourd'hui, madame.
Oui, c'est cela. Et sachant que mon fils est quelqu'un de fort et de très résilient et qui sait parler aux gens, à toutes sortes de gens, voilà, avec quelqu'un qui a des atouts en sa faveur, on va dire.
Merci.
Merci à vous.
Non, merci vraiment, merci beaucoup. Et je remercie Dominique Grimaud, puisque c'est lui qui m'a mis en contact avec vous il y a quelques minutes. Merci madame, et bon courage à vous. Et chacun espère évidemment revoir votre fils et tous ses otages. Merci beaucoup madame. C'est vrai que vous avez rencontré beaucoup de... Régine Delfour, beaucoup de familles d'otages sur place.
Oui, et là, ce qu'elle disait, Hadass Calderon me disait, mes enfants sont revenus et pourtant, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Je continue à faire des cauchemars la nuit, je me lève pour eux puisqu'ils ont besoin de moi, mais j'arrive pas à croire ce qui se passe. J'ai toujours mon ex-mari qui est là-bas. Et puis, dans le livre qu'elle sort demain... elle veut aussi, Hadass, elle a eu
Je montre là d'ailleurs, hein, 52 jours sans eux, Israël, 7 octobre 2023, le témoignage d'une mère d'otage. Il est là, ce livre.
Et dans ce livre, elle veut aussi qu'on n'oublie pas Carmela, sa maman de 80 ans et sa nièce Noya qui était autiste, qui ont été assassinées dans des conditions indescriptibles. On a retrouvé leur corps enlacé dans la maison, enfin dans la pièce forte, et la maison a été brûlée. Et elle veut qu'on se souvienne de ça. Elle parle aussi du terrorisme où nous aussi en Europe, on peut être victime. Elle veut mettre en garde tout le monde et notamment les Français par rapport à cela. Et oui, j'ai rencontré énormément d'otages et de familles d'otages, dont Yossi Schneider, qui est le cousin de Shiri Bibas. Vous savez, ce bébé Fir Bibas avec son petit frère Ariel de 4 ans, sa maman Shiri et leur père qui ont été kidnappés. Et ben, malgré tout, ils gardent cet espoir. Samedi, j'étais sur la place des otages et j'étais avec Michael Lévy, son frère Or, à 33 ans, a été kidnappé au festival de Nova. Et il me disait, évidemment qu'on garde espoir, sinon on ne peut pas continuer à vivre.
Merci. Merci beaucoup, Régine Delfour. Comment peut-on passer d'un sujet à l'autre? Et tout nous paraîtra dérisoire à l'aune du témoignage que nous venons d'entendre. Je parlais tout à l'heure de l'actualité des retraites avec vous, Éric de Ritmaten. C'est vrai que tout ça nous paraît dérisoire par rapport à ce dont on va parler à l'instant, nous paraît dérisoire par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ce témoignage. Il n'empêche qu'on est quand même surpris de ce qui peut se passer en France, où on fait une loi pour changer les réformes des retraites et où la SNCF... avec l'accord du gouvernement, parce que tout à l'heure, j'ai dit, en fait, j'ai peut-être utilisé une mauvaise expression, j'ai dit, la SNCF fait un bras d'honneur au gouvernement. Pas du tout.
C'est 100%.
Puisque le gouvernement accepte. En fait, le gouvernement fait un bras d'honneur à tous les autres.
Ou alors, il donne le bien mauvais exemple.
Donc, c'est ça qui est invraisemblable. Ouais. Je vous assure, je trouve que c'est invraisemblable.
C'est tellement symbolique à mes yeux. Quand je dis qu'il faut tout changer et qu'il faut changer le logiciel, etc. C'est symbolique. C'est à la fois dérisoire, je l'ai dit, mais tellement symbolique. Alors expliquez-nous.
Mais c'est surtout, vous avez raison, c'est surtout le mauvais exemple qui est donné. Et au moment où on demande aux Français de faire des efforts, on entend ça toute la journée, faire des efforts, se serrer la ceinture, réduire les allocations chômage. Là, on voit une société qui appartient à l'État à 100%, qui va bénéficier d'un nouveau statut, puisque je rappelle quand même que la SNCF a bénéficié d'un statut très privilégié. Il avait été cassé pour les nouveaux entrants, rappelons-le, Pascal. C'est pas pour les actuels, ils le gardent, le statut. Mais les futurs nouveaux entrants n'auront plus... Et là, qu'est-ce qu'on fait? On recrée un régime spécial. Alors, vous l'avez expliqué tout à l'heure, en gros, on annule la réforme des retraites. Déjà, les cheminots, c'est en général. Après, vous avez des catégories. Il y a les conducteurs, il y a les contrôleurs, il y a les sédentaires. Alors, c'est difficile de donner un âge de départ à la retraite parce que si je prends ceux qui roulent, les conducteurs, ils partaient à 55 ans. Ils vont partir à 57. Mais grâce à cette réforme cadeau, si on peut l'appeler comme ça, ils vont avoir 30 mois de gestes de l'État, de la SNCF, donc 2 ans et demi, 30 mois, je rappelle, et partir comme ça 2 ans et demi avant en bénéficiant à 100% de leur salaire pendant 15 mois.
Mais qu'est-ce qui justifie ça? C'est quoi la base? C'est parce que le job est trop dur?
La paix
sociale.
C'est la
bête humaine?
Attendez, je réponds à votre question. La menace de grève, tout le mois de mai. Il y a plein de ponts au mois de mai. Hop, bon, Farandou convoque ses syndicats, je vais vous faire un cadeau. La CGT n'en revenait pas. Ah, incroyable! Ils ont signé tout de suite, vous pensez bien.
Même la CGT, non.
Oui! Ensuite, vous avez les Jeux Olympiques, menace de grève. Vous allez voir, on va se venger, vous avez obligé. Et puis surtout, le point principal, c'est que la SNCF, personne ne le sait, gagne de l'argent. Il y a 2 ans, elle a gagné, je vérifiais, 3 milliards d'euros. Oui, on croit qu'elle perd de l'argent. L'an dernier, en 2023, elle a gagné 1,3 milliard. C'est ce pactole. Ah, vous gagnez du fric, maintenant vous allez nous le redistribuer. C'est comme ça que ça se passe. Alors moi, bon, très bien, tant mieux pour eux après tout, s'ils ont leurs avantages. Ce qui n'est pas normal, c'est que c'est le contribuable qui continue de payer pour ça. Bon. L'usager, quand vous allez à Lyon, moi j'ai regardé, moi je vais souvent à Lyon dans ma belle famille, c'est 100 balles un ticket de TGV. Quand vous allez 80 balles aller, 80 balles retour, 160, vous êtes à 3. Attendez, mais vous trouvez ça normal?
Ah non, mais je veux dire, il n'y a pas, on est d'accord que... Il n'y a pas assez de recettes dans la fonction publique pour payer les retraites. Nous sommes d'accord, de cotisations. Donc c'est l'impôt, c'est l'État qui paye.
Bien entendu.
Alors on est d'accord toujours que le privé est excédentaire. Bon.
Alors vous parlez des agir carco.
Oui. Bah oui, la retraite. Carco, oui. Mais le seul régime auquel on touche, c'est le privé. Eh bien. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au public. La preuve, une nouvelle fois. Alors on va dire le public est défavorisé parce que le public gagne moins d'argent. Mais bon, chacun.
Le gouvernement ne se couche que pour une seule raison. Les Jeux Olympiques.
Oui, le rapport de force. Alors qu'on ne nous explique pas
la négociation.
Leur réforme à un an, ils se couchent déjà.
Et surtout que la SNCF s'est mise en grève à répétition en 2019-2020. Ça a coûté, je regardais, 350 millions d'euros de pertes pour ces grèves à répétition.
Surtout que maintenant, avant, on disait le privé gagne moins que le public. C'est même plus vrai aujourd'hui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les salaires dans le privé sont souvent très très bas. Donc. En fait, c'est un scandale.
C'est plus une question de salaire.
C'est un scandale. C'est des privilégiés. Alors, je peux aller dans les gares parce que si
vous aviez eu un auditeur sur.
Je ne vais pas y aller parce que si je vois des contrôleurs, ils vont.
Vous aviez eu un contrôleur sur Europe 1, je me souviens, qui gagnait très très bien sa vie. Vous aviez même été surpris. Cet extrait avait fait un les réseaux sociaux. Voilà.
Avec un niveau éducatif très faible.
Voilà, il avait un bac.
Moi, je ne veux pas cibler. Je vous assure.
Je vous jure que c'est vrai.
Je ne veux pas cibler les gens de la SNCF, etc. Mais c'est en fait c'est un scandale. C'est parfaitement injuste.
Ils sont payés aux primes aussi. Voilà, c'est parce qu'ils
acceptent des horaires décalés.
On est le pays de la nuit du 4 août.
Mais le gouvernement, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que le gouvernement. Mais quelle crédibilité a Monsieur Attal? Quelle crédibilité à la parole publique quand tu détricotes ce qui a été voté pour tout le monde il y a un an.
Et là, ça ouvre la boîte
de
Pandore.
Pour une entreprise en plus qui est une entreprise d'État.
Mais là, en plus, ça ouvre la boîte de Pandore. Parce que si les cheminots,
c'est
mais
évidemment, mais puis à l'EDF, tu as toute la fonction, tu dis, moi, je veux la même chose.
Jeudi, une grève nationale des contrôleurs aériens. 70% de grévistes. Ben voilà, ils n'ont qu'à faire pareil, ils n'ont qu'à dire, donnez-nous.
Ne leur donnez pas d'idées, ils n'ont pas besoin de nous.
La paix sociale, elle sera comme ça.
Ils n'ont pas besoin de nous.
discipline olympique.
Alors, en parlant de paix sociale, Stanislas Guérini avait fait une erreur de timing en annonçant dans la fonction publique la fin du poste à vie. Je peux vous dire que dans le gouvernement, il avait parlé un peu trop vite, c'était pas le bon moment. Il aurait pu en parler après les Jeux.
Vous aurez reconnu, parce qu'il n'était pas là au début de l'émission, Gauthier Lebret est revenu dans cette émission et que nous saluons. Bon, bah écoutez,
voilà. Écoutez, on va éviter la vie, les gares, quoi, c'est ça que vous voulez.
Comment ?
On va éviter d'aller dans les gares.
Oui, non, mais. Oui, non, mais.
Mais il n'y a pas de concurrence en plus à la SNCF.
Si non, mais ça, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de concurrence. Je pense qu'il ne faut pas de concurrence à la SNCF, pour tout vous dire, parce que c'est un monopole naturel. Pourquoi ? Parce qu'après. Il y a des petites lignes qui sont pas rentables. Pour moi, c'est un service public. C'est ça, le service public.
Ça n'a pas très bien marché au Royaume-Uni, l'ouverture à la concurrence.
Oui, franchement, je trouve, moi, j'ai été convaincu par ça, on en a souvent parlé. C'est un service public. Il y a des petites lignes qui sont déficitaires et c'est pas grave parce que ça s'appelle un service public. Bon. Mais en revanche, qu'on mette la SNCF avec les règles du privé dans son fonctionnement interne. C'est tout.
Ou au moins qu'on casse pas les accords qui ont été négociés.
Mais bien sûr. C'est vraiment, c'est. Quel cirque, quand même. Ouais. Non mais sérieusement, tu te rends compte que ça a été la réforme des retraites ? Mais quel cirque !
Mais finalement, un
tout ça pour ça, amoindri, un tout ça pour ça, faible. Vraiment quel cirque ! Bon, Mélenchon.
Sans transition.
Non mais il était hier.
En parlant de bordel.
Bon, il était hier à Sciences Po. Alors, qui y avait dans l'amphi ? C'est que des étudiants ou c'était autre personne ?
Je l'aurais pas demandé. J'étais pas à Sciences Po moi-même, mais à Sciences Po, visiblement, dans les amphis de Sciences Po, il y a des étudiants de Sciences Po. Ça, c'est sûr. Oui.
Non mais qui y avait ? Parce que quand je vois tous ces jeunes gens qui applaudissent et
quand j'y étais, c'était pas le cas. Mais en principe, maintenant, les conférences à Sciences Po sont réservées uniquement aux étudiants de Sciences Po.
Mais ça vous
petit bonjour.
Ça vous inquiète pas ? On va voir la séquence Mélenchon après tout ce qu'il a dit.
Ça m'inquiète. Je sais pas.
C'est l'élite a priori de la France. C'est ceux qui vont avoir les postes demain. Mmh. Bon. Ils sont en train de chanter. Rima, Sciences Po est avec toi. Rima, Sciences Po est avec toi. Ils applaudissent. C'est Jean-Luc Mélenchon.
Il est toujours penché à gauche. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il penche à l'extrême gauche.
Non, mais pas.
Il est comme chez lui, Mélenchon à Sciences Po. Je rappelle toujours ce chiffre. Il fait 55% des votes au premier tour de la présidentielle chez les étudiants de Sciences Po. Et dans les sondages du CVIPOF, vous avez 71% des étudiants de Sciences Po qui se déclarent à gauche. 20 points de plus qu'il y a 20 ans.
Mon père a fait Sciences Po. Il m'a raconté que c'était déjà à gauche. Hein. Il y a à l'extrême gauche.
Non, pour avoir fait Sciences Po, la différence, c'est qu'autrefois, la question, c'était est-ce qu'on est keynésien ou est-ce qu'on est marxiste ? Donc, il y avait quand même un certain niveau intellectuel. Alors que la bouillie idéologique qui est servie aux étudiants est quand même assez surprenante.
Vous avez fait Sciences Po Paris ?
Oui.
Oui, parce qu'il y a Sciences Po Paris et puis les autres.
Non, on parle du vrai Sciences Po, voilà.
Voilà.
Pas de
mépris. Le Sciences Po, il y a querelle. Moi, j'ai pas fait Sciences Po, mais il y a querelle manifestement entre les anciens de Sciences Po qui considèrent que ceux qui ont fait Sciences Po Bordeaux ou Sciences Po Grenoble,
c'est quelqu'un dit ah t'as fait Sciences Po, ah oui j'ai fait Sciences Po Grenoble, ah t'as fait Sciences Po Grenoble, ah oui d'accord.
C'est le nom Sciences Po, mais c'est indépendant.
Oui, bon. Alors voyons.
Bien, la péniche est un bateau ivre. Puisqu'on dit la péniche pour Sciences Po.
Ah bon ?
Oui.
Bon, voyons cette séquence applaudissement.
La péniche, donc la péniche est aujourd'hui un bateau ivre.
Voyons cette séquence applaudissement. Monsieur.
Bon, l'amphi est mis une
Mais ça a été assez court finalement, non ? J'ai l'impression que cette séquence était plus longue. Mais bon, la deuxième chose, c'est Rima, Sciences Po est avec toi. C'est ce qu'ont chanté hier les étudiants de Sciences Po. Écoutez. Joachim Le Floch-Imad, qui est essayiste et qui connaît bien le monde de l'université.
Non, mais là, les images sont parfaitement choquantes. On pourrait montrer d'autres images. Il y a eu des altercations avec des collectifs étudiants. Par exemple, le collectif Némésis qui était présent, des syndicats de droite. Il y a eu des bousculades très vives. Je suis passé devant Sciences Po hier soir. Il y avait évidemment tout un tas de policiers pour sécuriser cette police qui tue, selon Mélenchon, qui était quand même là pour sécuriser son meeting. Et malgré son rapport assez trouble au judéo-christianisme, je pense que Mélenchon ferait bien quand même de méditer cette phrase du Nouveau Testament, malheur à celui par qui le scandale arrive. Enfin, honnêtement, quand on voit le chaos qui règne lors de ce genre de conférence à Sciences Po, on peut se poser des questions, et on peut se poser d'autant plus des questions sur le deux poids deux mesures, parce que moi, ça me choque pas que Mélenchon fasse une conférence à Sciences Po. Ça a toujours été un lieu qui doit être libre, ouvert à la parole politique. Par contre, quand j'étais étudiant, certaines personnalités n'avaient pas le droit de s'y rendre. Nigel Farage n'avait pas pu faire sa conférence. Zemmour, pareil. Philippot, pareil. Finkielkraut, ça avait été une protection policière radicale.
Je dis jusque là, Madame Florence Bergeau-Blackler, qui a pu faire une conférence à la Sorbonne aujourd'hui, ne peut toujours pas en faire une.
Et elle a tweeté. D'ailleurs, elle a tweeté. Ça sera notre dernier mot de cette deuxième partie. Regardez, Madame Bergeau-Blackler. Je suis docteur en anthropologie universitaire CNRS et je ne suis pas la bienvenue à Sciences Po Paris. En revanche, le leader d'un parti politique de surcroît antisémite et pro-islamiste peut y organiser une conférence. Est-ce normal? Et elle s'adresse directement à Gabriel Attal et à la ministre de l'enseignement supérieur qui est généralement... Oui, qui est la grande absente.
Un mandat de recherche bientôt.
Madame Retailleau, comment?
Avis de recherche.
Donc elle est plus à la recherche qu'à l'enseignement supérieur, mais à la recherche pour elle. Parce que manifestement.
Elle aime pas les polémiques. Ça, visiblement, elle aime pas ça.
Oui, elle aime. Bon,
qu'est-ce que vous voulez dire? Elle ne sait pas quoi dire surtout.
Que dites-vous, Charlotte?
Je pense qu'elle ne sait pas quoi dire surtout.
Oui.
Alors sur Sciences Po, elle avait réagi dans le JDD sur la fameuse affaire de l'élève empêché d'accéder.
Je remercie Monsieur Ritmaten.
Merci Monsieur Pro.
Merci grandement. Et demain on va célébrer. D'ailleurs, ça serait bien de faire un bilan économique parce que demain nous célébrons les 2 années, je crois, de réélection de Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Ah, oui. Donc oui, 2 ans. Il a été élu il y a 2 ans.
5+2
seulement.
5+2.
Il reste à peu près 1050 jours.
Ah oui, c'est ça.
Le cours de 2 ans qu'on vient de vivre. Ouais. On dit toujours malheur au deuxième mandat, malédiction du deuxième mandat. Les 2 années qui viennent de s'écouler, il en reste 3.
Ouais. Il reste 1050 jours. Mais là, il ne reste plus de temps avant la publicité. Donc à tout de suite.
À chacun sa plaie.
Étonnant. Michel Abitbol est avec nous. Histoire des Juifs en France du Moyen-Âge à nos jours, chez Perrin. Et ça va être intéressant de vous écouter pour voir cette relation particulière qu'il existe entre la France, les Français et les Juifs qui sont évidemment français. Et c'est intéressant parce que j'entends parfois des Juifs français dire « on n'a jamais eu le sentiment d'être aussi proche » de toute la communauté française, si j'ose dire, que précisément en ce moment.
D'abord, les Juifs de France ont l'impression de faire partie, depuis toujours, de la France. Ils n'ont pas l'impression d'être des étrangers arrivés en France, émigrés en France. Il y a toujours eu des Juifs en France. Les Juifs du Comtat, bien sûr, les Juifs d'Alsace, et les Juifs parisiens, sans parler des Juifs... Girondins. Alors, ces trois centres étaient un peu différents, disparates sur le plan du rite, sur le plan de l'histoire. Mais ce judaïsme a l'impression qu'il a été recréé, réinventé par la Révolution française. C'est la Révolution française, c'est Napoléon, en fait, qui a réunifié, comme disaient les Juifs eux-mêmes, qui a réunifié ces trois branches du judaïsme pour en faire une partie intégrante de la France.
Mais il peut avoir un paradoxe, parce qu'en même temps que l'antisémitisme est plus présent qu'il ne l'était il y a simplement un an, hein, aujourd'hui, les mezouzas, on enlève sur les linteaux des portes parfois les mezouzas, donc il y a effectivement cet antisémitisme, et on sait d'où il vient, et en même temps, paradoxalement, il y a une fraternité qui existe, très puissante, très forte, et c'est en tout cas les témoignages parfois que j'entends.
Vous savez, même à l'époque de l'affaire Dreyfus et à l'époque de l'antisémitisme, les Juifs de France n'ont jamais incriminé la France ou les Français. Ils ont incriminé les Allemands, par exemple. C'est l'Allemagne qui est à l'origine. Pendant la Shoah, pendant un bon moment, pour les Juifs de France, Vichy peut-être, mais c'était surtout l'Allemagne. Et aujourd'hui...
Et la religion chrétienne.
La religion chrétienne, c'était au Moyen-Âge.
Avec le Vatican II,
ça a changé.
Oui. Récent, parce qu'on rappelle que c'était la religion déicide.
Oui.
Et ça a 60 ans, le Vatican II.
Ça a changé, et puis il y a eu des changements même à l'intérieur de l'Église. L'apport du cardinal Lustiger, les relations judéo-chrétiennes, Jules Isaac, c'était quand même...
Mais vous convenez qu'il y avait un fond d'antisémitisme
dans l'Église
catholique.
Mais bien entendu qu'il y avait ce... Mais pour les Juifs de France, c'était
une sorte de reste de médiéval. Et aujourd'hui, on peut dire que pour les Juifs de France, l'antisémitisme d'aujourd'hui est surtout d'obédience ou d'inspiration islamiste.
Bien sûr. Et il faut le rappeler, bien évidemment, puisque cet antisémitisme de Drumont, il a disparu.
Oui, il a disparu. Il a eu quelques restes, mais il a disparu après la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a eu un renouveau dans les années 30.
Oui, quand même. Oui,
mais après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire qu'il a disparu. On va assister à une sorte de renaissance avec une certaine extrême droite. Et puis, le véritable renouveau de l'antisémitisme, c'est ces dernières années, avec la montée de l'islamisme.
On va en parler ensemble. Michaël Dorion est avec nous. Michaël, donnez-nous les dernières informations.
Le Conseil de l'Europe et l'ONU appellent Londres à revenir sur son projet de loi qui vise à expulser les migrants illégaux vers le Rwanda. Un projet approuvé cette nuit par le Parlement britannique après 2 ans de débat. Les premières expulsions devraient avoir lieu au mois de juillet. Près de 250 habitats illégaux détruits, 4000 contrôles effectués et près de 100 personnes interpellées. C'est le premier bilan de l'opération Place Nette lancée mardi à Mayotte. Une opération qui doit durer jusqu'à la fin du mois de juin. Au total, 1700 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés. Et puis Kenji Girac va mieux et il doit être auditionné dans la journée par les enquêteurs. Opéré hier près de Bordeaux après une blessure par balle au niveau du thorax. Un tir qu'il aurait, selon ses premières déclarations, provoqué lui-même et qui serait accidentel. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a cependant été ouverte.
Bon, nous terminons avec Jean-Luc Mélenchon à Sciences Po avec ses tweets de Rima Hassan. C'est toujours intéressant de voir comment celle qui est septième sur la tête de liste, sur la liste de la France Insoumise, s'adresse à l'association Organisation Juive Européenne, puisqu'elle a tweeté il y a quelques minutes. On n'en reste pas à l'absence de poursuites me concernant. Je ne connais pas la capitulation. Je vais vous traîner devant la justice comme on ne vous a jamais traîné, vous et vos complices. J'ai le temps et l'argent. Vos 50 avocats n'y feront rien. Vous êtes si petit face à la résistance palestinienne à laquelle j'ai été biberonné. On sent quand même que c'est des discours d'arrogance, de guerre, de suffisance. Et il y a là quelque chose quand même qui peut inquiéter. Oui,
elle s'adresse comme ça à bon nombre de gens sur les réseaux sociaux. Johan en parlait lui-même qui a été victime d'une plainte de Rima Hassan. Elle ne se contente pas de porter plainte. Elle lui dit bien « je vais vous traîner devant les tribunaux, je vous attends, etc. » Sur la même logo.
La menace.
La menace, voilà, une sorte de menace. Et donc, effectivement, parallèlement à ça, on scande à Sciences Po. Sciences Po, Rima est avec toi. Il faut rappeler, elle a dit à l'interview, encore une fois, c'est pour ça qu'elle est convoquée par la police, elle a dit à une interview du Crayon Média en ligne, après l'attentat du 7 octobre, est-ce qu'on lui pose la question, est-ce que l'action du Hamas est légitime ? Elle répond vrai. Voilà. Est-ce qu'Israël a le droit de se défendre ? Elle répond faux. Elle est contre la solution à deux États. Elle est pour un État binational. L'État binational, c'est une manière en trompe-l'œil de dire la fin d'Israël, surtout quand vous reprenez le slogan « From the river to the sea », du Jourdain à la mer Méditerranée, donc plus d'Israël sur rayé de la carte, Israël rayé de la carte tout simplement.
Pourquoi aussi peu de personnes posent la question « Que vient faire Mme Hassan dans une élection européenne ?» Pardonnez-moi, moi ça me semble évident.
Rapporter des voix.
Qu'est-ce qu'elle vient faire ?
Rapporter des voix.
Qu'est-ce qu'elle vient faire ? C'est quoi son atout ? C'est quoi sur la construction européenne ? C'est quoi ?
Charlotte Dornelas.
Mais incarner le référendum qu'a mis en place la France Insoumise pour cette élection européenne. Vous avez Antoine Léaumin qui dit voter Rima Hassan et Manon Aubry a disparu de cette campagne électorale. Donc,
Parce que Manon Aubry, je pense qu'elle n'est pas sur cette ligne.
Elle
est plus modérée, oui.
Bah, elle est pas sur cette. C'est pas une question de modérer, c'est une question
c'est
de.
Avec qui on peut discuter aussi.
Voilà, elle n'est pas sur cette ligne. Vrai. Elle est sur une ligne économique. Elle est sur une ligne de gauche.
Voilà. Des hyperboles.
Voilà. Elle n'est pas du tout sur la ligne identitaire, Manon Aubry.
Très vrai. On a l'impression que la tête de liste maintenant c'est Rima Hassan.
Mais terminé.
Oui, c'est ça. Bah, donc elle incarne parfaitement la question qu'ils veulent poser aux Européennes parce que c'est le chemin qu'ils ont pris pour essayer de gagner. Évidemment, ils auraient. Je réagissais juste sur le.
Quelle question?
La souffrance des Palestiniens à laquelle elle a été biberonnée. Mais de quoi elle parle ?
Vous avez raison, ce n'est pas une question, c'est un élan.
C'est une insulte à l'épreuve qu'affrontent en ce moment les Palestiniens et les Israéliens. C'est irréel, c'est même
extraordinairement
mais
choquant.
Mais m'engueulez pas moi, hein, c'est pas moi qui ai mis en place ça. Je...
Ces gens n'ont aucune idée de ce que c'est que la violence, de ce que c'est que la guerre. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le dilemme d'un pays en guerre et la tragédie des civils qu'ils ont pris dans cette épreuve. C'est un scandale. C'est comme tous les pays du tiers-monde qui brandissent la cause palestinienne.
Non, mais elle, en l'occurrence, elle a vécu ça.
Pas les gens
avec qui elle a vécu ça quand même.
En Syrie.
Oui, mais en Syrie.
Oui, en Syrie.
Oui, on est loin, on est très loin de Gaza, vous savez, en Syrie.
Oui, d'accord. Enfin, elle connaît quand même un peu le sujet.
Mais elle, Charlotte. Oui, les gens qu'ils essayent d'attirer à eux, non, ça c'est sûr. Et par ailleurs, je ne dis pas que c'est une bonne chose ou que c'est intelligent ou que c'est même décent par rapport à ce que vivent les Gazaouis aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce que j'étais en train de dire. Simplement, c'est ça. Là, vous avez raison, c'est qu'ils ne posent pas une question. Ils essayent de mobiliser sur un sujet. En effet.
Bon, et puis on découvre des choses absolument extraordinaires en France. Le maire de Fontenay-sous-Bois, qui s'appelle M. Gontray, est critiqué par certains d'avoir permis dans le gymnase municipal de sa ville l'organisation d'un tournoi de foot en solidarité avec Gaza. Vous avez peut-être vu ces images, en cause la mise en scène et les affiches placardées pour l'occasion sur les murs du gymnase, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà ce qui se passe en France. Sur l'affiche du tournoi, on peut lire les soutiens Urgence Palestine, collectif Fontenay-Palestine, l'événement parrainé par OGB, de la mafia CRI. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation ou pas. Et je crois que Estelle Youssoufa était hier soir et a réagi, me dit Marine Lançon. Donc je propose d'écouter ce qu'a dit Madame Youssoufa.
En fait, c'est à ça que renvoie cette image. C'est aux mises en scène qu'il peut y avoir chez certains terroristes palestiniens où on met en scène une parade, le kéfié, etc., qui est une idéologie, qui est une mise en scène de guerre à des fins de propagande. Et ça, ce n'est pas la Palestine tout court. Il faut quand même arrêter d'insulter la mémoire des victimes palestiniennes, du combat politique juste et d'un conflit qui a de vraies racines historiques et le réduire à des terroristes. Enfin, moi, je suis profondément choquée. Et c'est ce qui est douloureux, c'est de dire que ces images... en fait, annihile l'injustice qui est faite à des Palestiniens, aux morts dont on parle. Et en fait, on est en train de terroriser tout le monde, de manipuler quand même des jeunes personnes, a priori à des enfants sont en train de participer à cette mise en scène.
Il y a tellement raison.
On dirait un épisode de la fièvre.
Il y avait un article très intéressant dans le Bondi Blog avec des propos que je trouve quand même très symptomatiques. Je suis musulman et la Palestine est un peuple musulman, alors ce qui leur arrive, ça me touche forcément. Enfin, on en revient à la puissance identificatoire de la cause palestinienne chez des gens qui n'ont rien à voir avec cette cause.
Oui, mais c'est
pas le contraire, mais c'est vrai.
Mais ça montre, quoi, c'est la thèse.
Bizarrement, pardonnez-moi, bizarrement, il n'est pas autant sensible à ce qui arrive aux musulmans,
aux Ouïghours,
bizarrement.
Il y a une dynamique générationnelle.
Peut-être un élément qui est un élément supplémentaire.
Il y a une dynamique générationnelle par ailleurs derrière ça. C'est la toute puissance de l'Ouma chez les moins de 25 ans. Enfin, j'ai quand même vu un sondage de l'IFOP. 74% des musulmans français de moins de 25 ans disent faire passer la loi de l'islam avant la loi de la République aujourd'hui.
Non mais
parce que ceux qui voulaient imposer le contraire ont été combattus.
C'est donc parrainé par OGB. OGB, c'est un rappeur. En fait, c'est un rappeur.
Vous avez cité aussi Urgence Palestine.
Oui.
Urgence Palestine, il y a une enquête de Livre Noir. Ils ont infiltré Urgence Palestine. Et même chose, ils veulent l'éradication d'Israël.
Michel Abitbol est avec nous ce matin. Et on parlera évidemment de l'histoire des Juifs en France. Mais les étudiants juifs à Columbia, j'imagine que vous avez suivi également ce qui se passe à la veille de la Pâque juive. Le président des États-Unis a condamné un antisémitisme dangereux, alors que des étudiants de l'université new-yorkaise Columbia ont réclamé que l'établissement boycotte toute activité avec lui en Israël. Et aujourd'hui, ils suivront sans doute des cours à distance. Les responsables de l'établissement espèrent désamorcer les tensions sur ce campus de New York, avec près que des manifestations anti-Israël et pro-palestiniennes ont donné lieu à des arrestations massives la semaine dernière. Donc ça se passe à New York, ça se passe dans tout l'Occident.
Oui, pour revenir aux États-Unis, on semble oublier, on semble occulter que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait par exemple un numerus clausus anti-juif dans les universités américaines, dans les grandes universités américaines. Il y avait un antisémitisme de fond. Par exemple, l'un des grands pontes de l'antisémitisme américain n'est autre que Henry Ford, que nous connaissons. Et puis, ces dernières années, bien sûr, il y a eu ce mouvement évangéliste, le mouvement israélien qui est pro-israélien, mais dans le fond, ce mouvement évangéliste, il est d'une certaine manière anti-juif, puisque le but ultime de ce mouvement, c'est tout simplement la conversion des juifs. Et ça a occulté donc cette réalité. Et puis,
les États-Unis, nous sommes, il ne faudrait pas oublier, n'ont pas connu la Shoah, n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale, qui est le choc sur les opinions mondiales, sur les opinions occidentales, européennes. Donc cet antisémitisme dormant s'est réveillé avec l'afflux, d'abord, des capitaux qataris et autres qui ont acheté véritablement des chaires dans les grandes universités américaines au point d'empêcher la nomination de chercheurs israéliens, l'invitation de chercheurs israéliens dans ces chaires, l'afflux massif d'étudiants arabes dans ces universités. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'indifférence de la nouvelle génération juive qui est de moins en moins pro-israélienne, de moins en moins attachée au judaïsme. Que, disons,
c'est la première fois que j'entends ça.
Oui. Il y a un mouvement anti-israélien, on peut dire anti-sioniste, assez puissant d'ailleurs, dans les universités israéliennes, même parmi dans les synagogues, disons, libérales. Qui
n'existe pas en France.
Non, en France, elle n'existe pas.
Dans les universités israéliennes ou américaines ?
Américaines, dans les universités américaines. C'est la première fois que j'entends ça. Effectivement, ce que vous dites, c'est aux États-Unis. En France, ça c'est...
Non, en France, il y a des petits mouvements vraiment d'anciens trotskistes, etc., qui restent antisionistes au nom d'un certain passé, au nom d'une certaine idéologie. Mais nous n'avons pas ce phénomène américain en France.
Un mot avant de revenir sur votre expertise et sur cette histoire des Juifs en France qui est évidemment passionnant et... Parler beaucoup de François Mitterrand, c'est intéressant, qui est sans doute le président de la République qui aura été le plus proche de la communauté juive. Mais un mot sur le couvre-feu des mineurs, puisque Robert Ménard veut mettre ce couvre-feu en place des mineurs.
Ça y est, c'est fait hier.
Bon, il est entré en vigueur. Un arrêté municipal prévoyait un couvre-feu aux mineurs de moins de 13 ans. Bon, ça ne doit quand même pas concerner beaucoup de jeunes gens.
Sans les parents.
Oui. Bien sûr, un enfant de moins de 13 ans n'a rien à faire, effectivement, à moins de 13 ans, t'es au lit à 21h. Et...
C'est une histoire très intéressante, ça.
Oui, je suis d'accord, mais écoutez...
Ils prenaient le même arrêté en 2014, qui a duré 4 ans. Oui. La Ligue des droits de l'homme, qui n'a rien d'autre à faire, a décidé de saisir la justice. Ils ont perdu deux fois devant les tribunaux. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est le Conseil d'État, 4 ans plus tard, en 2018, qui a condamné Robert Ménard à verser 5 000 euros... À la Ligue des droits de l'homme. Et donc là, rebelote, puisque Gérald Darmanin a imposé un couvre-feu pour tous les mineurs, pour le coup. Mmh. Et à partir de 20h, pour deux mois, depuis la semaine dernière, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Robert Ménard s'est dit, fort de ce que vient de faire Gérald Darmanin, je vais reprendre mon arrêté de 2014, et 10 ans plus tard, je vais le remettre au goût du jour.
Écoutez-le, Robert Ménard.
Récidiviste.
Parce que c'est une évidence. Parce que c'est une mesure de bon sens. Je vous rappelle que je l'avais fait il y a 10 ans. Parce que des gosses, enfin je sais pas, vous avez des enfants, est-ce que vous croyez qu'un minot qui a de 9 ans, 10 ans ou 11 ans, il a à être tout seul en pleine nuit dans la ville? Bien sûr que non. D'abord, quand ils sont en bande, ils sont souvent des dangers, et quand ils sont tout seuls, ils sont en danger. Et donc c'est pour ça que je l'avais fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait été poursuivi, vous en souvenez peut-être, par la Ligue des droits de l'homme, comme si elle avait rien d'autre à foutre, la Ligue des droits de l'homme, que de s'occuper de ça. Je lui en donnerai d'autres sujets. Et ensuite, ça avait été du coup cassé par le Conseil d'État. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même position. D'abord, les mentalités ont évolué. Regardez, au même moment où je fais ça, le ministre de l'Intérieur fait au fond la même chose. En Guadeloupe, c'est difficile de me dire, en Guadeloupe, le ministre a raison de le faire et vous n'avez pas raison de le faire.
J'ai l'impression qu'il y a un peu la même chose que vous, si vous me permettez, Gauthier Lebret. Sabrina...
C'est l'histoire.
Et la Ligue des droits de l'homme veut à nouveau poursuivre Robert Ménard.
Ils ont dit très précisément, l'extrême droite est contre l'état de droit. Donc je ne sais pas si ça visait Gérald Darmanin ou
et
Robert Ménard. Mais effectivement, ils veulent retenter de reprendre 5 000 euros.
Vous vous rendez compte qu'on en est rendu à dire que des mineurs de moins de 13 ans qui ne doivent pas être dehors, c'est une mesure d'extrême droite. Je pense qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique.
Là, Robert Ménard, c'est un cas assez spécifique, puisqu'on parle des mineurs de moins de 13 ans, mais il y a eu un sondage national qui disait que 67% des Français voulaient un couvre-feu pour tous les mineurs de moins de 18 ans. Et ça, je trouve quand même que c'est une dérive liberticide à laquelle on est en train de s'habituer.
Je suis d'accord avec vous.
Désolé, mais on ne parle pas de tous les mineurs, on parle de certains
mineurs.
Et de certains pans du territoire.
Non, mais puis 13 ans, ce n'est pas la même chose que 17 ans. Je veux dire qu'un gosse.
Ans, ceux qui sont dehors, précisément.
Voilà, qu'un gosse de 17 ans sorte de temps en temps jusqu'à. En fait, on a tous eu la même histoire quand on avait.
17 ans, on sortait au-delà de 23 heures avec nos amis. Donc voilà.
Pas beaucoup au-delà de 23 heures à 16 ans, si vous me permettez. Moi, j'avais le droit à minuit. Et c'était l'été, croyez-moi. Mais à l'époque, tu pouvais rentrer en mobylette.
C'est après 23h.
Vous allez à la Beaugeoire, vous rentrez chez vous, il est 23h passé.
Quand j'avais 16 ans, c'était le stade Marcel Sopin, mais peu importe. Mais je veux dire, c'était minuit. 16 ans, chaque âge, 14 ans, tu sors pas.
Non, 14
15 ans, 16 ans, 22h.
Franchement, 16 ans. On a tous des souvenirs. Hein.
Oui, non, mais bon, vous verrez quand vous aurez des enfants. Bon, Sabrina Agresti-Roubache, elle est secrétaire d'État à la ville et à la citoyenneté. Écoutez ce qu'elle a dit là-dessus.
Je ne sais pas si c'est une bonne mesure. Ce que je crois, c'est de dire aux parents, déjà, la première chose. J'aime bien quand on revient aux fondamentaux. Oui. Il faut dire aux parents qu'un mineur, un enfant, n'a pas à être seul la nuit dehors. Et si jamais un parent ne s'en sort pas avec son gamin, c'est la réalité.
La mère de famille, le père de famille, qui a un gamin qui leur a totalement échappé, il va dire, dis donc, ce matin, j'ai entendu Sabrina rester au bâche, elle a dit, c'est super intéressant, tu sors plus, il va dire, t'es gentille, maman, et il claque la porte.
Très bien, alors qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas, c'est vous qui êtes aux affaires.
Ben oui, moi je suis aux affaires, et je dis justement, les parents, quand ils n'y arrivent
plus, ils doivent,
et c'est une évidence.
Est-ce qu'il faut taper sur les allocations familiales?
Non, ça je crois pas. Vous savez, non, on rajoute pas de la misère à la misère.
Bon, intervieweurs qui posent des questions.
Ah oui, les intervieweurs posent des questions. Bon, histoire des Juifs en France, c'est intéressant. François Mitterrand, c'est très intéressant de partir de François Mitterrand et parce qu'effectivement les Juifs étaient plutôt de gauche. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont moins de gauche. Bon, jamais la France n'a eu un président aussi proche des Juifs, écrivez-vous, aussi passionné du judaïsme et aussi familier avec Israël que François Mitterrand. Il a entretenu durant toute sa carrière des relations très étroites avec de nombreux compagnons de route ou israéliens.
Oui, c'est Shimon Peres, Elie Wiesel, Dayan, Georges Dayan, son ami.
Grand ami qui était mort juste avant le dîner 80.
Bien sûr, Attali, parmi ses proches. Il a connu Israël et ses enfants, je crois même, ont vécu, ces deux garçons ont vécu en Israël au moins. L'un d'eux a passé une certaine période dans un kibbout et pendant toute la période d'avant son élection, il a fait montre vraiment de grande solidarité avec Israël, de rapprochement avec Israël. Et puis, il est élu, et puis c'est Mitterrand, le premier président de la République, à venir en visite officielle en Israël, ce qui n'était rien à l'époque. Mais Mitterrand aussi, c'est l'homme qui a, d'une certaine manière, encouragé la reconnaissance d'Arafat. Encouragé la reconnaissance d'Arafat, d'abord par la France, il l'a invité. Et puis, tout le monde se souvient de cette fameuse phrase d'Arafat sur la charte palestinienne.
Caduque. D'accord. Il l'avait dit dans un 20h à TF1.
89.
Alors, caduque.
Cette charte qui est caduque. En fait, elle était peut-être caduque, cette charte. Mais sur le terrain, il y avait un autre phénomène dont Mitterrand n'était pas conscient. Et je crois même que les Israéliens n'étaient pas conscients non plus. C'est la montée du Hamas. Le Hamas qui était déjà sur les rails depuis la fin des années 70 et pour lequel l'éradication d'Israël n'était absolument pas caduque, au contraire. C'est même un acte de foi, si on peut dire.
Est-ce qu'on peut dire à grands traits que les Juifs de France, ils sont de gauche, en gros, jusqu'à l'an 2000. Ils ont bien compris que c'est la gauche qui les protège, que la droite catholique est un peu, voire beaucoup antisémite, et que ça bascule au début des années 2000. Et qu'au contraire, et c'est ça le paradoxe aujourd'hui, c'est que non seulement les Juifs de France, parfois ils sont de droite, mais ils sont même très à droite.
Oui, ils sont à droite en France, ils sont à droite en Israël, ces Juifs de France. Ces Juifs de France, je crois que l'électorat d'Éric Zemmour en Israël en est un des signes. J'imagine que Marine Le Pen serait la bienvenue en Israël.
Mais le CRIF, par exemple, n'est pas sur cette position.
Mais le CRIF, ça dépend des présidents du CRIF.
Bah, Monsieur Arfin n'est pas sur cette position.
Non, il ne l'est pas. Et en fait, le CRIF a toujours été une sorte de fédération de sensibilités juives. Et il y avait même des communistes lors de la fondation du CRIF des communistes, qui sont partis, je crois, dans les années 80. Et le CRIF essaye de représenter toutes les sensibilités juives de France. Aujourd'hui, là, je crois qu'on n'en
parle pas. Pas la sensibilité Zemmour.
Non, mais aujourd'hui...
Et vous dites qu'elle est majoritaire parmi les juifs de France. Donc oui, le CRIF exclut cette sensibilité.
Le grand changement aussi, parallèlement à ce changement politique, si on peut dire, la séphardisation du judaïsme de France, depuis l'arrivée des pieds noirs, des pieds noirs d'Algérie, l'arrivée des nord-africains, qui eux sont carrément, de dirais pas de droite en tout cas, anti-gaullistes. Ils étaient anti-gaullistes. De Gaulle qui avait renoncé à l'Algérie, française, et donc est dans la tradition familiale des juifs séfarades, des juifs d'Afrique du Nord. Il y a aussi cette crainte, cette peur presque innée des Arabes, de l'islam, qui les conduit à voter à droite ou à s'éloigner, disons, des partis de gauche.
Les juifs en France au Xe et XIe siècle, écrivez-vous, en dépit des règles rigoureuses de l'Église, juifs et chrétiens ont des relations conviviales dans la vie de tous les jours durant toute l'époque carolingienne. Par ailleurs, il n'y a aucune obligation pour les juifs de vivre dans des quartiers séparés, de porter des signes vestimentaires distinctifs ou encore de pratiquer des métiers typiquement juifs. Oui. C'est quoi un métier typiquement juif ?
Un métier, par exemple, la fameuse usure, oui. N'est-ce pas ? Mais il n'était pas obligé. Il y avait des juifs aussi agriculteurs. Par exemple, le grand Rachi de Troyes était connu pour son champagne, si vous voulez. Et d'ailleurs, dans les textes de Rachi, nous avons toute une terminologie sur la culture la culture du vin, la culture des vignobles, etc. Une terminologie, d'ailleurs, en français ancien. Et certains spécialistes essayent de retrouver certaines racines de ce français ancien, de ce français médiéval, à travers les textes de Rachi, à travers les traductions de Rachi. Et Rachi qui était français de toute son âme, si on peut dire, de toute sa culture.
Combien de juifs de France aujourd'hui dans le pays ?
Il y a un chiffre presque, disons, mythique. 400 000, 500 000, mais en fait, on n'en sait rien. Peut-être 300 000. Il y a quelques années, on parlait de 600 000. D'abord, il y a eu des départs en Israël, c'est vrai. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les mariages mixtes, les mariages exogamiques.
Il y a des statistiques, d'ailleurs, sur ce que vous appelez des mariages mixtes ?
Non, on n'en a pas vraiment de fiables. Il y a des évaluations.
Est-ce qu'on peut dire que ça reste une rareté ?
Non, ça ne reste pas une rareté. On peut dire que dans chaque famille juive en France, il y a au moins un mariage exogamique, un mariage mixte. Un mariage mixte, dans ces mêmes familles, vous avez un mariage mixte d'un côté et un parent ou un proche qui a immigré en Israël. Donc vous avez tout ce mélimélo.
La hausse spectaculaire du nombre d'élèves dans l'enseignement privé juif, qui, selon l'étude minutieuse de la sociologue Martine Cohen, attire un tiers des enfants scolarisables, les deux tiers restants se répartissant entre l'enseignement privé catholique et l'enseignement public. C'est un tournant pédagogique et culturel majeur qui, insécurité dans les banlieues et aux abords des écoles publiques aidant, prendra toute son ampleur dans les années 90 et 2000. Parce qu'évidemment, cette histoire des juifs en France, elle est passionnante, mais ce qui nous intéresse fortement, c'est évidemment la situation d'aujourd'hui. Et on sait que, par exemple, il y a plus de juifs ou moins de juifs à Sarcelles, alors qu'ils étaient très présents. Et vous nous dites aussi dans des études que les juifs ne vont plus dans les écoles de la République et vont dans des écoles professionnelles.
À mon avis, c'est là
par peur.
Oui, c'est là le grand drame. Dans les années 50, dans les années 60, on peut dire que 90% des juifs de France, les enfants juifs de France allaient dans l'école publique, allaient à l'école publique. Et l'école publique, depuis la Révolution, si on peut dire, depuis la Mais... Depuis les années 70, depuis les années 80, il y a vraiment cet exil intérieur, à savoir les Juifs qui quittent les banlieues, d'accord, et aussi la raréfaction, si on peut dire, du nombre d'enfants juifs dans les écoles, à l'école publique. Ils vont dans le privé, aussi bien le privé catholique d'ailleurs, que le privé juif confessionnel.
J'ai aussi le travail de Michel Abitbol, bien sûr l'actualité c'est importante, mais c'est de montrer à quel point les Juifs sont consubstantiels à l'identité française. Vous avez parlé bien sûr de Rachi, mais on pourrait dire que deux grands monuments de l'identité française
que son Bodin, qui fait La République au XVIe siècle, écrit en hébreu. Il s'exprime plus en hébreu qu'en grec. Et Montaigne, je rappelle aussi, Montaigne qui est fils de Marane.
Absolument.
Donc il y a également, et que la monarchie d'ailleurs française s'inspire en grande partie de textes juifs. Donc il y a, le judaïsme est consubstantiel à l'identité française, c'est ce que montre votre livre.
Oui.
C'est très intéressant également de lire votre analyse. Ni la tour Eiffel illuminée aux couleurs d'Israël, ni les quelques prises de position courageuses d'artistes et d'intellectuels non-juifs. Pas même le voyage de solidarité avec Israël du président de la République Emmanuel Macron et celui de plusieurs autres personnalités politiques de premier plan ne peuvent faire oublier aux Juifs de France la désolante réalité qui les attriste chaque jour un peu plus. Et en parallèle, vous écrivez aussi « Quelle mauvaise surprise de constater ainsi » que le fer de lance de la gauche française, la France insoumise, ses compagnons de route du nouveau parti anticapitaliste, des indigènes de la République et de diverses associations étudiants et de lycéens, ainsi que des syndicalistes et des féministes, prennent place le plus naturellement du monde au milieu de manifestants scandant des slogans « Mort à Israël, mort aux Juifs, ponctués d'Allah Akbar ».
Ce qui est attristant, c'est que cette collision, on peut dire, entre... socialisme et antisémitisme. Mais en fait, pour l'historien que je suis, cela ne m'étonne pas. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, le socialisme ou la gauche était antisémite. Mmh. Elle était antisémite parce que le judaïsme était considéré dans son ensemble comme une sorte de suppôt du capitalisme, et des grands noms connus de la gauche comme Proudhon, Blanqui, etc. étaient carrément antisémites.
Et même l'ambiguïté de Jaurès au début.
Absolument.
De la
Et Jaurès, nous avons des textes de Jaurès sur l'Algérie, sur l'antisémitisme algérien, où vraiment il semble accepter l'analyse antisémite de la situation des Juifs, de la situation de l'Algérie.
Bah en tout cas, c'est un livre passionnant et je renvoie effectivement à l'éditeur Perrin, Histoire des Juifs en France. C'est aussi assez intéressant de voir dans les années 20, 30, 40, beaucoup masquaient leur judaïsme, et moi j'hésitais même, ça allait jusque dans un prénom qui était donné, qui était un prénom français, si j'ose dire, tel qu'il a été utilisé à l'époque. Et à partir des 80-90, c'est le contraire, tous les prénoms bibliques dans les familles juives sont réapparus. On a eu beaucoup d'enfants avoir des prénoms bibliques, ce qui n'était pas le cas sans doute de leurs parents. Et alors, quel sera l'avenir? Mais je n'en sais rien.
Pour continuer dans ce que vous venez de dire, même dans le vocabulaire juif de français, il y a eu une sorte d'évolution. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on parlait de circoncision, on parlait de communion. Alors aujourd'hui, on reprend la terminologie hébraïque.
Tout à fait. Ouais.
On parle de bar mitzvah, ouais. On parle de brit mila. Ouais. À l'époque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on parlait d'israélite.
Oui.
Aujourd'hui, on parle ouvertement de juifs.
Raymond Barre avait, je crois, parlé dans sa fameuse déclaration.
Oui, sur les innocents, oui.
Et il avait dit d'israélite, hein, je crois.
Israélite.
Qu'il avait...
Aujourd'hui, on parle, les juifs parlent de juifs. Donc il y a aussi ce contre-coup, à savoir une sorte de rejudaïsation de la communauté française.
Exactement.
Je suis très intéressé juste par ce que vous avez dit sur les facs américaines. Il y a quand même un drame, c'est qu'on a à peu près un tiers, je crois, des étudiants américains juifs qui ont été agressés ou menacés depuis le 7 octobre. Alors même qu'historiquement, tout le succès, tout le prestige, le rayonnement des grandes facs américaines, notamment de la côte Est, c'était des élites intellectuelles juives. Enfin, oui. les George Steiner, les Léo Strauss, les Blum, etc. Il y a quand même une dette à l'égard de cette tradition qu'on est en train de dilapider par l'acheter.
Absolument. Je crois que l'antisémitisme n'a jamais été aussi prégnant, aussi grave que de nos jours.
Bien sûr.
Mais c'est surtout dans les départements de sciences sociales, en STEM, en sciences dures, on voit que les représentations sur le Hamas n'ont rien à voir, par exemple.
Comme il nous reste quelques minutes et que l'actualité, elle est aussi avec le bilan PlaceNet qui se met en place, je voulais vous montrer ce sujet de Michaël Chaillou. On en a parlé hier avec Montpellier et on a vu que ces jeunes gens, les deux témoignages de ces jeunes gens ont fortement marqué ceux qui les ont écoutés. Je voulais qu'on voie le sujet de Michaël Chaillou à Nantes pour savoir si l'opération PlaceNet est efficace ou non.
Trois semaines d'opération PlaceNet XXL en Loire-Atlantique et au final, sur le volet stupéfiant, 63 gardes à vue et plus de 11 kilos de produits saisis. Au-delà des chiffres, le procureur de la République retient cette capacité nouvelle grâce au renfort de CRS à harceler les points de deal au quotidien, dont trois à Nantes ont dû fermer boutique.
Ce sont des opérations qui ont permis de gêner sur un laps de temps plus important qu'à l'accoutumée, certains points de deal sur lesquels, c'est vrai, il n'est pas facile d'agir.
Entre les tours du quartier de Bellevue, depuis PlaceNet, le deal est moins visible qu'avant. Il s'est déplacé plus discret, disent ces trois habitantes, qui estiment que la tension est montée d'un cran.
Bah, PlaceNet, effectivement, ils sont dérangés. Malgré tout, même si c'est pas autant qu'on voudrait nous, ils sont dérangés, ils sont aux aguets. Je pense qu'il y a un peu plus de guetteurs. À tout moment, je pense qu'il peut y avoir un dérapage.
PlaceNet, normalement, ça veut dire qu'on peut sortir de chez nous sans problème, qu'on n'est pas confronté à des dealers dès qu'on fait 50 mètres. Enfin, normalement, PlaceNet, ça veut dire qu'il n'y a plus rien.
PlaceNet, ce n'est pas un one-shot, dit le préfet. Les forces de l'ordre resteront sur le terrain. Ce soir-là, à Bellevue, vers 19h, peu de véhicules de police entre les adeptes du rodéo à scooter, avec ou sans casque.
Il est 10h30. Michael Dorian nous donne les dernières infos du moment.
Une première nuit de couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre et elle s'est déroulée dans le calme. Depuis hier soir, les moins de 18 ans n'ont pas le droit de sortir entre 20h et 5h du matin sous peine d'une amende de 750 €. Ce couvre-feu doit durer au moins un mois. Un homme qui a menacé de mort l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel va comparaître aujourd'hui. Il avait publié un message menaçant après l'altercation entre le chef d'établissement et une élève qui refusait d'enlever son voile. Âgé de 26 ans, il se présente comme un militant pro-palestinien. Et puis c'était il y a tout juste 200 jours aujourd'hui, l'attaque terroriste du Hamas en Israël. 1170 personnes ont été tuées le 7 octobre dernier et 129 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Parmi eux, trois Français, Orion, Ofer et Oad. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition.
Nous avons eu ce matin la maire d'Orion. Pascal Radou qui était avec nous et c'était un témoignage émouvant. Monsieur Habitbol, je voulais que vous commentiez avec moi la couverture de votre livre « Histoire des Juifs en France ». On voit Napoléon. Voilà.
C'est après la réunion du fameux Sanhédrin, quand Napoléon a voulu inviter ou a demandé aux Juifs de France d'écrire une nouvelle page, en fait une nouvelle loi religieuse concernant les Juifs de France. Et puis, il remet cette charte, n'est-ce pas, aux représentants du judaïsme de France. Vous voyez le symbole de la menorah, qui est le symbole du judaïsme. Et puis, bien sûr, ces Juifs de France qui sont agenouillés devant l'empereur pour recevoir de ses mains ce nouveau texte, cette nouvelle loi.
Et Joseph Mascaron, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, l'intérêt également de ce livre, c'est que ça va contre une idée un poison qui ne cesse de se répandre, selon lequel les Juifs en France, ce ne sont pas des Juifs en France, ils sont israéliens. C'est-à-dire qu'ils viennent en gros d'arriver et qu'il y a un face-à-face, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui se fait en fait entre deux situations, les pro-palestiniens et les israéliens. C'est ça aussi ce que vous dites votre livre.
Je pense que les Juifs de France sont d'abord des Français.
Oui.
Et pendant longtemps, pour les Juifs de France, c'était des Français juifs. L'identité française, et non seulement l'identité française est au centre, mais ils ont essayé pendant des siècles, en tout cas au lendemain de la Révolution, de trouver une sorte d'adéquation entre le judaïsme et les valeurs françaises. Donc ce n'est pas seulement des Juifs qui ont été intégrés à la société, mais des Juifs qui sont efforcés pour créer les bases spirituelles, on peut dire, de leur intégration. D'ailleurs, cette base spirituelle, au centre de cette base, il y a le patriotisme des Juifs de France. Et pendant longtemps, d'ailleurs, le slogan du concitoire central, c'était « patrie et religion ». Et la patrie, c'est la patrie française, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, pendant des années, en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même au-delà, même après, les Juifs de France étaient contre le sionisme. Ils n'étaient pas du tout sionistes. C'est après la guerre de Six Jours. c'est après l'avènement du général de Gaulle et ses fameuses phrases sur le peuple, un peuple d'élite sûr et dominateur, que les Juifs ont commencé à se rapprocher d'Israël. Mais jusque-là, c'était...
Cette phrase qui reste très étonnante, d'ailleurs.
Oui, c'est avec un relent d'antisémitisme très, très, très fort, n'est-ce pas?
Bien sûr, un relent culturel.
Oui.
Forme de...
C'est bien ça. Donc, ce n'est qu'après. Mais même pour les Juifs de France, vous savez, un Juif français qui émigre en Israël reste français avant tout. L'attachement à la France, l'attachement à la culture française, ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe en France et ils sont en fait partie prenante de
avec,
la vie politique et la vie culturelle.
Avec le point noir parmi les points noirs de la France, qui est évidemment la rafle du Vel'd'Hiv.
Oui, bien sûr.
Jacques Chirac avait, au contraire, c'est ça aussi le paradoxe, Mitterrand, disiez-vous, était proche des Juifs et lui-même n'a pas reconnu à ce moment-là.
C'est bien, et puis ça reste.
Parce que pour Mitterrand, la France, Vichy, c'est pas la France, quoi. C'est toujours la même
mais il y a eu
ligne de partage. La France était à Londres.
Mais il y a eu quand même une reconnaissance.
Ça l'a rangé, oui.
Il y a eu une reconnaissance des fautes de la France. Il y a eu
Et puis après, la polémique qui était faite à François Mitterrand, parce que c'était un proche en plus René Bousquet.
Bien sûr.
Et Badinter, lorsqu'il n'a jamais dit un mot contre François Mitterrand, avait parlé de son trouble, je crois, lorsqu'il avait appris cela et il n'en avait jamais dit davantage.
Oui, absolument.
Et quand Mitterrand avait été hué, il avait dit « Faites silence, vous me faites honte ».
Vous me faites honte.
Tout à fait. Bah, écoutez, c'est passionnant, monsieur Habibol, de vous écouter, vraiment. Et je vous remercie grandement. Je vois que Vincent Hervoux est également écouté avec beaucoup d'intérêt.
Non, mais l'histoire sur la reconnaissance par Chirac de la faute commise par la France, et non pas par l'État français, ça reste un sujet, un sujet de débat sur lequel on pourrait s'éterniser. Évidemment.
C'est des fonctionnaires. Oui, quoi, c'est des fonctionnaires français.
La France combattante, elle est à Londres, elle est à Alger. Vous dites, il y avait intérêt. Je vois pas très bien quel est l'intérêt de François Mitterrand, qui avait été décoré avant par Vichy, de défendre ce point de vue-là. Non, il était courageux en le disant. Il était courageux en le faisant. Vous verrez plus Mitterrandien que vous.
Écoutez, on ne va pas rouvrir ce débat.
C'est un vrai débat. Noble, tout à fait.
Oui, quoi, noble. Aucun préfet n'a démissionné, aucun magistrat n'a démissionné, et les policiers, écoutez,
spécial.
Et les policiers ont fait, ça, et tout a fonctionné, et c'est le mot de Gaulle, un fonctionnaire s'est fait pour fonctionner, et ils sont tous restés en place. Et évidemment, De Gaulle, en 45, a expliqué qu'on était tous résistants, parce qu'autrement, c'était impossible. Voilà. Je suis d'accord, mais je ne vais pas rouvrir.
Vous ne l'ouvrez pas, mais vous la fermez. L'inscription, elle est formidable.
Non, mais ne soyons. C'est des policiers français qui sont venus arrêter des Juifs. Qu'est-ce que les Juifs disent
Est-ce que c'est la France alors qu'elle était aussi à Londres et qu'elle était
étrangère? Non, mais.
La question, elle est.
Écoutez,
elle était déportée.
J'entends. Voyez les débats. Bon, on est très en retard. On est très en retard, donc je suis désolé. François Lemoine était à la réalisation. Philippe était à la vision. Maxence était au son. Merci à Marine Lançon, à Félix Perrola. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Et pardon à Jean-Marc Morandini pour ces quelques secondes de retard. Merci. À ce soir.
Merci beaucoup.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.